Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, je vous propose de réagir à la décision du président guinéen Alpha Condé d'organiser des consultations inclusives sur l'opportunité d'une nouvelle constitution. Cela fait maintenant plus d'un an que ce sujet alimente tous les débats. Il faut dire que régulièrement, les partisans du chef de l'État plaident pour une nouvelle constitution, en tout cas à 12 mois de la fin de son deuxième et théoriquement dernier mandat. Le président de la République propose un dialogue. Il invite l'ensemble de la société civile, de la classe politique, les syndicats à débattre sur cette question d'une nouvelle constitution. Les principaux opposants ont d'ores et déjà prévenu qu'ils n'y participeraient pas. Ils dénoncent une manœuvre d'Alpha Condé pour essayer évidemment de se maintenir au pouvoir. Ce boycott annoncé est-il justifié? On en parle ensemble dans une trentaine de minutes et vous continuez à appeler 33 9 693 693 70. C'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. J'ai sorti ma calculette, je crois qu'on est à plus de 1500 commentaires postés sur la page Facebook de l'émission, donc voilà, on vous donnera la parole. Un peu de patience. D'ici là, comme tous les matins évidemment, vos questions à la rédaction et on va revenir sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci de nous appeler, vous êtes à Conakry, on vous écoute, quelles sont vos questions?
La semaine dernière, il y a eu l'augmentation des violences à caractère xénophobe en Afrique du Sud. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est à la base de ces violences, quel est l'élément déclencheur. Ensuite, qu'est-ce que le gouvernement sud-africain met en œuvre pour éviter ces violences?
Oui, bonne question que vous posez, d'autant que le phénomène est récurrent. Ces attaques racistes visant des ressortissants africains font écho à celles de 2015 et à celles de 2008. Bonjour Alexandra Branjon.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, ancienne correspondante de la Radio Mondiale en Afrique du Sud. Les violences de ces derniers jours ont fait au moins 10 morts. D'ailleurs, hier, une personne a encore été tuée dans le centre de Johannesburg. Connaît-on l'élément déclencheur de ces dernières attaques racistes?
Alors, tous les 3-4 ans, on assiste à une nouvelle flambée de violences xénophobes. Cette tension entre Sud-Africains étrangers est latente dans le pays et il suffit d'un incident pour qu'elle s'enflamme. Alors, dans ce cas précis, l'élément déclencheur a été le meurtre d'un chauffeur de taxi, de minibus, dans la province du KwaZulu-Natal, il y a 2 semaines. Apparemment, il a confronté un groupe de vendeurs de drogue qui opérait à proximité du terminal de bus et il a été tué. Son meurtre a provoqué la colère des résidents qui s'en sont pris à ceux qu'ils identifient comme responsables de ce trafic de drogue, dont des étrangers qui avaient des petits commerces à proximité, des Congolais, des Nigérians, des Tanzaniens. Et à partir de là, l'incident a fait boule de neige. Le syndicat des transports a saisi l'incident pour dénoncer les conditions de travail de ses membres. Dans la foulée, des transporteurs routiers étrangers ont été pris à partie. Et voilà, ça a été le point de départ. Ensuite, là, il y a eu propagation de ces incidents dans tout le pays, la province du Cap, Pretoria, pour culminer il y a 8 jours à Johannesburg. Alors, vous le disiez, hein, il y a eu de nouveaux incidents hier, dimanche, dans le centre-ville de Johannesburg, avec des groupes d'hommes qui marchaient dans la rue demandant le départ des étrangers et plusieurs commerces du centre ont été incendiés.
Voilà donc pour l'incident déclencheur, mais le malaise, Abdoulaye le disait, ce malaise, il est permanent en Afrique du Sud.
Oui, et il est attisé par un environnement économique difficile, un chômage élevé, plus de 28%, un manque de place dans les hôpitaux, dans les écoles, un service public défaillant ou inexistant. Et à cela s'ajoute le discours des hommes politiques, parfois qui, à des fins électorales, blâment les étrangers. Par exemple, s'il y a trop de chômage, c'est parce que les étrangers prennent le travail des Sud-Africains. S'il y a de la criminalité, c'est parce que les Nigérians vendent de la drogue. S'il n'y a pas de place dans les hôpitaux, c'est parce que les étrangers abusent du système. Et donc, comme ces problèmes de fond ne sont pas réglés, eh bien, cette violence ressurgit régulièrement.
Ouais, des autorités accusées de tenir un double discours. On a pu entendre la semaine dernière, notamment à votre micro, des chercheurs, des responsables de la société civile. Concrètement, que font les autorités sud-africaines pour limiter ces violences?
Alors, dans ce cas précis, la police a déployé dans les quartiers où il y a eu de la violence, notamment à Johannesburg, des policiers. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été arrêtées. Maintenant, ce que les associations qui aident les migrants reprochent aux autorités, c'est de ne pas avoir un discours clair suivi d'action. D'un côté, on a le chef de l'État qui dénonce ces violences, De l'autre, on a par exemple son ministre adjoint de la police qui tient un discours provocateur où il dit très clairement qu'il y a trop d'étrangers dans le centre de Johannesburg, que ce n'est pas tolérable et que bientôt les Sud-Africains vont avoir un président étranger. Donc un discours qui attise. Ensuite, ces organisations dénoncent également le manque d'action, hein, la police qui assiste au pillage des magasins sans intervenir, ou bien tout simplement les auteurs de ces pillages et des violences qui ne sont jamais arrêtés ou qui sont arrêtés mais qui ne sont pas traduits en justice, qui envoient un message d'impunité. Pour finir, je pense qu'il y a un point important, c'est aussi un certain déni de la part des autorités sud-africaines. Dans le passé, et cette fois-ci encore, elles évitent souvent de parler de xénophobie, mais évoquent plutôt de la criminalité. En ce moment, justement, il y a un débat sur est-ce que ces violences sont des actes spontanés, opportunistes, donc des gens qui veulent aller piller, ou des actes xénophobes planifiés, par exemple par des petits groupes qui ont intérêt à se débarrasser de la compétition étrangère. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle les pays de la région ont réagi avec autant de virulence. Ils ont le sentiment que Pretoria ne prend pas suffisamment au sérieux ce problème de xénophobie dans le pays.
Ouais, l'analyse d'Alexandra Branjon. Abdoulaye, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement. Merci beaucoup.
Merci à vous de votre fidélité. Un grand merci évidemment à Alexandra Branjon du service Afrique de RFI, 10h16 à Paris. Simon Rosé du service Sciences de RFI. Bonjour Simon.
Et bonjour.
Des questions pour vous justement, des questions posées par Osana qui nous a contacté du Tchad. Il est à N'Djamena exactement. Bonjour Osana.
Bonjour Juan et je profite de votre micro pour dire bonjour à tous les agents de RTL Tchad.
Très bien, bah écoutez, s'ils nous écoutent, on les salue également. Allez-y, quelles sont vos questions ?
Oui, Juan. L'Agence spatiale européenne a évité de justesse la collision de deux satellites. Alors j'aimerais savoir, comment éviter ce genre d'incident et la multiplication du nombre de satellites orbitaires ne risque-t-elle pas d'augmenter ce genre de risques ?
Ouais, bonne question que vous posez, Simon Rosé. C'est vrai que la semaine dernière, l'Agence spatiale européenne a dû réaliser en urgence une manœuvre pour éviter une collision à plus de 320 km d'altitude. Il s'agissait d'éviter une collision entre un satellite américain et un satellite européen ?
C'est ça.
Et ça
exactement.
S'est joué de peu ?
De peu, on ne sait pas, ils prennent pas de risque en fait. Hein. Si le risque de collision est supérieur à 1 sur 1000, en général, on prend pas de risque parce que ce sont quand même des engins qui valent plusieurs centaines de millions d'euros, de dollars. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y a ADM Aeolus, qui est un satellite donc de l'Agence spatiale européenne, un satellite scientifique d'étude des vents, qui est en orbite depuis une petite année maintenant. Et sur sa trajectoire, il occupe sa trajectoire normale autour de la Terre, et sur sa trajectoire, en fait, est venu s'insérer un satellite de SpaceX, la société d'Elon Musk, dont on parle beaucoup en ce moment. Un satellite, en fait, qui fait partie de ce qu'on appelle une constellation. SpaceX a pour projet, à terme, d'envoyer 12 000 satellites qu'on appelle Starlink, pour offrir une connexion Internet à la planète entière. Là, pour l'instant, seuls les 60 premiers sont en orbite. Ça avait déjà suscité pas mal d'inquiétudes à l'époque. Et parmi ces 60, il y a Starlink 44 qui a fait une manœuvre, justement, qui est descendue, qui est venue se trouver sur l'orbite, la trajectoire d'Aeolus. L'Agence spatiale européenne a repéré le risque de collision, a prévenu SpaceX, leur demandant ce qu'ils comptaient faire, parce que c'est quand même eux qui sont arrivés après coup, qui sont venus sur le chemin d'Aeolus. SpaceX a dit, pour l'instant, c'est pas encore trop grave, on verra après. Le risque a augmenté de collision, il est passé de 1 sur 10 000 à 1 sur 1000. L'Agence spatiale européenne a rappelé SpaceX, et là, SpaceX se justifie en disant, en fait, on n'a pas vu votre mail.
Ouais. Ça veut dire donc, quoi concrètement, ça veut dire que cette entreprise américaine SpaceX a refusé de déplacer son satellite.
Au tout début, oui, parce qu'ils estimaient que le risque n'était pas assez élevé pour justifier cette manœuvre. Et quand le risque, on a affiné un peu ce risque et que l'Agence spatiale européenne s'est rendu compte que 1 sur 1000, bon, on va pas s'amuser à prendre un risque comme ça. Là, SpaceX se justifie en disant on n'a pas vu le mail.
Ouais. Bon. En tout cas, la collision a pu être évitée.
Voilà.
Mais à l'avenir. À l'avenir.
Grande question.
Osana pose une bonne question. On assiste à une multiplication du nombre de satellites en orbite. Est-ce que ça ne risque pas un jour d'augmenter les risques de collision ?
Comme je le disais, Starlink, c'est 12 000 satellites à terme. Il y a d'autres projets de constellation. Il y a OneWeb, ça va être des milliers de satellites. Il y a Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui veut mettre également sa constellation. Oui, c'est le risque, clairement. Ça inquiète beaucoup de monde. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de règles en la matière. SpaceX a refusé et était dans son droit de refuser. Il n'y a aucun règlement qui oblige une société comme ça à déplacer l'un de ses satellites.
Aucun règlement n'encadre le trafic de satellites au-dessus de nos têtes.
Non. Non, non, c'est un no man's land. C'est
le Far West.
Pour l'instant, l'espace est grand, hein, donc ça se des mesures d'évitement. Les satellites en font très régulièrement pour éviter des débris, pour éviter un autre satellite. C'est beaucoup plus rare, mais il y a de grandes sociétés de gestionnaires de satellites, type Iridium, toutes les sociétés de télécommunications comme ça, qui appellent de leur vœu justement la mise en place d'un cadre international là-dessus. Ça n'existe pas. Donc pour l'instant, les sociétés, les agences développent leurs propres ressources, par exemple avec l'intelligence artificielle, pour que le satellite lui-même puisse détecter les risques de collision et faire la manœuvre en automatique. L'agence spatiale européenne veut intégrer ça à ses satellites. On va voir s'ils vont réussir à le faire.
Osana, vous aviez une autre question ?
Oui, Juan. Quelles pourraient être les conséquences si seulement la collision n'a pas pu être évitée ce jour-là ?
Ah.
Grave.
Que se serait-il passé, Simon ?
La destruction des deux satellites, hein, déjà, oui. De toute façon. Donc c'est déjà des centaines de millions d'euros qui partent en l'air, et surtout le travail de dizaines d'années, surtout pour des satellites scientifiques qui sont compliqués. C'est vraiment la pointe de la technologie. Il y a des chercheurs qui ont passé des décennies à travailler là-dessus, donc c'est un peu dommage. Au-delà de ça, on risque ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, c'est-à-dire une réaction en chaîne en orbite. Deux destructions de satellites en orbite, ça fait plein de débris.
Des millions de débris.
Qui vont de l'ordre d'une dizaine de centimètres au millimètre. Mais même un débris d'un millimètre en orbite, il tourne autour de la Terre entre 25 000 et 30 000 km/h.
Donc ça veut dire que les satellites qui sont en orbite vont devoir éviter ces débris.
Mais avec le risque quand même que ces débris abîment, voire détruisent d'autres satellites qui vont faire des débris, qui vont en faire encore plus, avec un risque de syndrome de réaction en chaîne, ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, et ce qui en est l'étape ultime, où en fait toute l'orbite basse terrestre ne serait que remplie de débris, et on pourrait même plus envoyer de fusées, de satellites en orbite, puisqu'il y aurait tellement de débris que ce serait un no man's land.
Scénario catastrophe.
C'est le risque. Donc il y a pas mal, il y a une sensibilisation à la question des débris. Il y a plein de projets, d'études pour essayer de retirer les plus gros et tout ça. Mais bon, on n'est qu'au début et la question se pose pas encore vraiment. L'orbite n'est pas encore encombrée à ce point-là.
Merci Simon Rosé d'être venu quelque part nous rassurer finalement. À bientôt Simon. Osana, bonne journée. À Djamena, 339 693 693 70. Bonjour Sidik.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Vous avez des questions sur le Soudan, où hier, le premier gouvernement post-Omar el-Béchir a prêté serment.
Oui. Au Soudan, certains groupes armés qui ont refusé l'accord sur la transition sont engagés dans le processus avec le nouveau gouvernement. Alors, qui sont ces groupes ? Et quels sont les points qui souhaiteraient à revoir ?
Des groupes armés, effectivement, qui rejettent l'accord sur la transition. Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Alors, ces groupes armés qui refusent donc l'accord de transition ont même constitué un front commun. L'objectif, c'est de négocier avec les nouvelles autorités de Khartoum. D'abord, qui sont ces hommes armés ?
Eh bien, ce sont des gens qui se battent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies maintenant, hein, des groupes rebelles. On sait au Darfour qu'il y a trois groupes historiquement. Deux d'entre eux sont particulièrement opposés, sinon à la transition, du moins à ce nouveau, non pas à ce nouveau gouvernement, si vous voulez, mais au fait que les crises des régions périphériques du Soudan ne sont pas prises en compte par le soulèvement populaire à Khartoum, malgré certains éléments. On a vu dans la rue qu'on a dit « nous sommes tous des gens du Darfour ». Enfin, c'était quelque chose qui rappelait un peu le « nous sommes tous Charlie » en France. Mais derrière les mots, il n'y a pas vraiment de prise en compte de ce problème des régions marginalisées, périphériques du Soudan, qui s'estiment victimes des gens de la vallée du Nil, si vous voulez, et du centre du pays. Donc ils se sentent étrangers à cette jeunesse éduquée, consciente politiquement, qui s'est révoltée contre Omar el-Béchir. Ouais. Et aujourd'hui, ils voudraient que dans la déclaration constitutionnelle soit prise en compte leur problématique particulière, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent.
Le partage des richesses, les problèmes du Darfour, leur participation également aux différents niveaux du gouvernement. Marc Lavergne, est-ce que les nouvelles autorités, justement, sont prêtes à renégocier avec ces groupes armés ?
Ah ben je pense que la bonne volonté est là, mais du côté de l'armée, pas tellement, parce que c'est une boîte de Pandore. L'armée a commis beaucoup d'exactions, de crimes de toutes sortes au Darfour, dans les monts Nouba, au Nil bleu, et les officiers qui sont au pouvoir ne tiennent pas à ce que tout ça soit mis sur la table, tous ces crimes de guerre qui sont passibles de traduction devant la Cour pénale internationale au même titre que Al-Bashir. C'est le cas du président Al-Burhan par exemple. Hein. Et puis surtout derrière il y a Hemeti, il y a les Rapid Support Forces qui sont originaires de ces régions, mais qui ont été embauchés comme mercenaires par ce général entre guillemets qui était à la solde du pouvoir de Khartoum et qui est le principal bourreau du Darfour en particulier. Donc c'est lui qui a rempli les camps de réfugiés actuels avec des jeunes qui sont originaires de ces tribus, de ces peuples en même temps à la frontière entre le Tchad et le Soudan, parfois qui viennent du Niger, qui viennent du Sahel en général. Donc c'est ces jeunes qui sont un peu en déshérence, qui cherchent un emploi. Et on a quelque chose d'assez particulier qui ne me semble pas assez souligné, c'est que finalement tous ces gens des périphéries, qu'ils soient les bourreaux ou les victimes, ont des intérêts communs et sont hostiles à cette suprématie historique de la vallée du Nil, de Khartoum, sur l'ensemble du Soudan.
Ouais, le décryptage de Marc Lavergne en direct sur RFI ce matin. Merci d'avoir répondu à Sidik, qui nous appelait de N'Djamena. Allez, une dernière question, une question concernant le parti présidentiel en Turquie. Bonjour Bruce.
Bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Nous vous écoutons.
En Turquie, le parti présidentiel a engagé une procédure d'exclusion contre plusieurs membres, dont un ancien premier ministre. On leur reproche d'avoir critiqué l'AKP. Mmh. Mes questions sont les suivantes. Comment peut-on expliquer ces sanctions au sein du parti présidentiel?
Ah, bonne question. Question à laquelle répond Nicolas Monceau. Bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à l'Université de Bordeaux, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Rien ne va plus au sein de l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan. À l'instant, Bruce disait que plusieurs membres, et non des moindres, sont en passe d'être exclus de cette formation présidentielle. On se souvient que cet été, l'un des fondateurs, un ancien ministre de l'économie, une personnalité importante, a, elle, démissionné du parti. Que se passe-t-il ?
Le parti présidentiel de l'AKP traverse effectivement des difficultés depuis plusieurs mois sur le plan politique et économique. Et c'est ce qui explique en large partie les tensions internes propres à ce parti. La démission du ministre Ali Babacan en juillet dernier et la procédure d'exclusion qui est lancée depuis une semaine à l'encontre de quatre dirigeants du parti, dont l'ancien premier ministre Ahmet Davutoğlu. Mmh. Il faut rappeler que l'AKP a essuyé une défaite électorale très importante en mars dernier lors des élections municipales. Elle a perdu en particulier la ville d'Istanbul. Et l'ancien Premier ministre Davutoğlu, qui est donc actuellement confronté à cette procédure d'exclusion, a très largement critiqué les choix politiques et la stratégie électorale qui a été adoptée par le président Erdogan, notamment lorsqu'il a été demandé l'annulation du scrutin d'Istanbul et l'organisation d'une nouvelle élection en juin, que le parti a perdu avec un score encore plus sévère.
Ça veut dire quoi, en quelques mots, Nicolas Monceau, qu'on n'accepte pas les frondeurs au sein du parti présidentiel turc ?
En effet, le parti AKP est dirigé d'une main de fer, dit-on, par le président Erdogan, qui n'accepte pas la moindre critique. Il n'y a pas d'espace pour la démocratie interne au sein de ce parti, d'après ses détracteurs. Et donc c'est aussi la gestion autoritaire du parti par son président, qui est le chef de l'État Erdogan, qui est critiqué par les dissidents, par les frondeurs, dont Ahmet Davutoğlu, qui ont l'intention de créer d'ailleurs un nouveau parti qui pourrait représenter un parti concurrent à l'AKP et se présenter lors des prochaines élections présidentielles et législatives en 2023.
En 2023, dans 4 ans maintenant. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes, Nicolas Monceau, pour répondre à Bruce. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain matin. D'ici là, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. À suivre dans 10 minutes, notre débat du jour et cette question, la Guinée a-t-elle besoin d'une nouvelle constitution ? On en parle évidemment tous ensemble.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.